up.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Pas mécontent de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, médias et culture au sens large, tous les médias et toutes les formes de culture. Tiens, nos indispensables du jour, un thriller avec le nouveau Franck Tillies, très attendu. Il vaut quoi? Eh bien, Nicolas Caro va nous le dire. Et puis, musique, avec le déconfinement qui s'annonce, Angèle Châtelier va nous donner la programmation des Francopholies de La Rochelle. Là aussi, festival très attendu. Nous sommes ensemble pour 2 heures en direct et je précise que vous pourrez évidemment podcaster l'émission ou la partie qui vous manque sur europe1.fr. Notre infomédia, quand les journalistes se lancent en politique, on en parle avec l'historien Alexis Lévrier et Françoise Degois qui est passé du journalisme à la politique et qui est revenu au journalisme. Et puis nos invités, deux figures, pour ne pas dire deux mythes, chacun dans son domaine. Le réalisateur Serge Moati, qui fut le conseiller image de François Mitterrand des années 70 jusqu'à sa dernière heure. Moati qui signe un documentaire très personnel, Mitterrand et la télévision, avec des archives parfois inédites et même des archives de Moati. Et puis, peut-être le plus grand photoreporter au monde, le Brésilien Sebastião Salgado, pour un gigantesque projet Amazonia, un livre sublime de 500 pages, accompagné d'une exposition à la Philharmonie de Paris avec un environnement sonore conçu par Jean-Michel Jarre. Il y aura en prime son portrait inattendu par Hélène Manarino. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Antoine Genton.
Salut Philippe, bonjour à toutes et à tous.
Grosse partie pour vous aujourd'hui au sommaire de votre journal des médias.
Un engouement exceptionnel autour d'Epsilon, un nouveau magazine scientifique annoncé ici même hier dans Culture Média. Un documentaire important ce soir sur France 5, documentaire sur la transidentité. Et puis une deuxième saison pour HPI, la série policière Phénomène de TF1.
Mais d'abord les audiences avec Médiamétrie. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir?
Eh bien TF1 en majorité avec mention particulière, bienvenue dans l'âge adulte avec Marie Dalzotto, Bruno Salomon et Hélène de Fougerolles. Près de 4 millions de téléspectateurs, 3 810 000 précisément, 17,2% de part d'audience. C'est nettement moins bien que le premier épisode, les deux premiers épisodes qui dataient de 2017, près de ce qui avait réuni là, près de 6 millions de téléspectateurs. Deuxième place pour France 2, avec Meurtre au paradis, série policière, 3 523 000 téléspectateurs, 15,9% de part d'audience. Troisième place pour M6, j'y viens, Marie au premier regard, un peu plus 3 millions de téléspectateurs, 3 240 000, près de 15% de part d'audience. Record de saison pour le programme d'M6. Et puis en quatrième position, c'est à signaler, c'est W9, avec un film Red 2, près d'1 600 000 téléspectateurs, 7,2% de part d'audience.
Culture Média.
Le journal des médias, Antoine, maintenant, avec à la une le succès d'Epsilon, ou Epsilon, parce qu'il y a deux O, nouveau magazine scientifique, dont le titre a été dévoilé hier, ici même, dans Culture Média.
Oui, déjà, près de 13 400 abonnements déjà souscrits en 24 heures seulement. C'est près de 9 fois plus que l'objectif que les fondateurs s'étaient fixé. Un objectif qu'ils comptaient atteindre, pas en une journée, mais en un mois. Succès phénoménal, donc, pour ce mensuel créé par d'anciens journalistes de Science et Vie, mensuel dont le premier numéro n'est même pas encore sorti. Il arrivera en kiosque dans un mois et demi, fin juin.
Le focus programme du jour, c'est un documentaire important ce soir sur France 5.
C'est un film qui explique particulièrement bien ce qu'est la transidentité, le fait de ne pas se sentir en accord avec le genre féminin ou masculin attribué à la naissance. Il raconte aussi ce qu'implique la transition, ce processus parfois douloureux qui aboutit au changement de genre, processus psychologique, médical, social. C'est un combat, le combat pour être soi. C'est d'ailleurs le titre de ce documentaire présenté et co-réalisé par Olivier Delacroix. Un combat raconté à travers l'histoire de 4 personnes, 2 hommes, 2 femmes. Parmi elles, Emma, ancienne chef d'entreprise, devenue restauratrice. Elle a changé de genre peu avant d'avoir 60 ans. Une histoire qu'elle a tenue à raconter. Témoigner à la télévision était important pour elle, sans être évident au départ.
J'ai beaucoup hésité, ça m'a fait trembler. Mais pour une raison personnelle, c'était de briser définitivement ce silence qui m'a pesé pendant près de 60 ans. Donc c'est une façon de mettre fin complètement à ce monde caché pour moi vis-à-vis des autres. Et puis la deuxième, c'est la visibilité. Enfin, c'est la même chose, vous allez me dire, mais sauf que là, c'est plus pour la communauté qui m'entoure. On a besoin encore aujourd'hui d'être visible. Moi, je sais que j'ai beaucoup regardé des émissions sur le sujet, lu beaucoup de livres également. Ça m'a aidé. Ça a aidé ma femme également et mes enfants. Donc, je me suis dit qu'aujourd'hui, c'était à mon tour, qu'on ne pouvait pas toujours laisser les autres faire le boulot et qu'à un moment, il faut mettre la main à la pâte, quoi. Voilà.
Mettre la main à la pâte, autrement dit parler, pour expliquer ce qu'est une transition, pour battre en brèche les a priori sur les transgenres.
Je pense qu'il y a une énorme confusion dans l'esprit des gens. Enfin, je le vois encore aujourd'hui. C'est très compliqué pour gens de comprendre cette démarche, ce qu'on est, pour ce qu'on vit. Et donc, ça crée une peur parce que c'est tout ce qui semble irrationnel, ça provoque tout de suite une peur, donc un rejet. Et nous ne sommes pas des créatures particulières. Nous sommes des gens comme les autres. On a peut-être même, je dirais, une richesse en plus, finalement. Quelque chose de peut-être plus universel que les autres, finalement. On a par contre vécu une expérience qui est particulière, ça par contre qui est forte et parfois douloureuse, mais n'ayez pas crainte et soyez accueillants avec les gens, avec la population trans, parce qu'en général, elle a besoin de beaucoup d'amour.
Emma, l'une des quatre personnes transgenres que vous pourrez voir et entendre ce soir, Transidentité, le combat pour être soi, c'est à 20h50 sur France 5, un film de la collection Ils font bouger les lignes. Il est signé Julie Ledru et Olivier Delacroix, que vous retrouvez lui chaque soir de la semaine sur Europe 1 à 22h30.
Dans l'actualité des médias également, il y aura bien une deuxième saison pour HPI.
Oui, cela ne faisait guère de doute, hein, compte tenu du succès écrasant de la nouvelle série policière de TF1. Tenez-vous bien, 11,5 millions de téléspectateurs pour le premier épisode, hein, une audience consolidée, c'est-à-dire qui tient compte aussi des replays. Deuxième saison donc pour HPI, elle est en cours d'écriture, dit le producteur exécutif de la série à La Voix du Nord. C'est à Lille, hein, et dans sa région que se déroulent les intrigues. Les repérages vont d'ailleurs commencer cet été, ce sera en août, encore dans le Nord. Le tournage, lui, devrait débuter mi-octobre pour prendre fin en février prochain.
Actualité des séries encore avec deux autres annonces.
La première, c'est une nouvelle saison de Grey's Anatomy, la 18e. L'accord entre ABC et l'actrice et productrice Hélène Pompeo a été signé après plusieurs mois de négociations, avec à la clé une nouvelle hausse de salaire pour la comédienne, qui confirme ainsi son statut d'actrice de télévision la mieux payée aux États-Unis, avec un peu plus de 20 millions de dollars, 17 millions d'euros par an. Autre annonce, l'arrivée le mois prochain de la deuxième série française produite par Amazon, Mixte, l'histoire mouvementée de l'arrivée de 11 jeunes filles dans un lycée de garçons dans les années 60. Les quatre premiers épisodes seront disponibles le 14 juin.
Et puis Clubhouse tente de se relancer.
L'application de chat audio est désormais disponible sur Android, elle n'était accessible jusque-là que sur les iPhones. Une évolution lancée aux États-Unis d'abord avant d'être étendue au reste du monde dans les jours qui viennent. C'est ce qu'ont annoncé hier les dirigeants de Clubhouse. Des dirigeants qui espèrent ainsi enrayer une baisse inquiétante des nouveaux utilisateurs. Il y en avait eu 9 600 000 en février et seulement 922 000 le mois dernier.
C'est 10 fois moins.
Exactement, en cause des problèmes techniques et une concurrence accrue. Twitter, Facebook, Instagram proposent désormais des services similaires.
Merci beaucoup Antoine Genton. On vous retrouve demain pour de nouvelles audiences et un nouveau journal des médias.
À demain.
Dans un instant, notre info média du jour, on va parler des journalistes, de ces journalistes qui changent de métier pour faire de la politique. On en parle avec la journaliste Françoise Degois, ex-conseillère de Ségolène Royal et revenue au journalisme qui était son premier métier. Et puis avec l'historien Alexis Lévrier, auteur d'un ouvrage sur le pouvoir et la presse. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Il y a deux semaines, Perico Legas, rédacteur en chef au magazine Marianne, officialisait sa candidature aux élections régionales sur une liste MoDem en Indre-et-Loire. Tandis que Philippe Ballard, journaliste politique sur LCI, lui, quittait son poste pour devenir tête de liste du Rassemblement National aux élections régionales en Ile-de-France. Ce n'est pas la première fois que des journalistes se lancent en politique. C'est même un usage typiquement français, de plus en plus courant. Laurent Saïm, Audrey Pulvar, Bruno Roger Petit, la liste s'allonge régulièrement. Cet état de fait souligne-t-il une porosité, pour ne pas dire une connivence inévitable entre journalistes et politiques. Du reste, les politiques eux-mêmes n'empiètent-ils pas sur le terrain des journalistes en devenant parfois ensuite des chroniqueurs réguliers sur les plateaux télé? La carte de presse ou une carte de parti politique sont-elles solubles dans le débat d'idées? Que de questions. Bonjour Alexis Lévrier.
Bonjour Philippe Vandel.
Vous êtes professeur, vous enseignez à Reims et aussi à Sciences Po Paris. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur les rapports entre journalistes et politiques, dont le dernier, Jupiter et Mercure, le pouvoir présidentiel face à la presse. Avec vous, avec nous, François de Gois, bonjour.
Bonjour Philippe.
On peut vous entendre pour Sud Radio, voilà, je l'ai dit comme ça chez nos confrères, on peut vous voir sur LCI. Ouais. Vous êtes journaliste politique depuis de longues années et vous avez été la conseillère de Ségolène Royal. Je vais commencer par vous poser à tous les deux une question d'ordre général. De la même manière qu'on dit souvent qu'un journaliste de cinéma rêve de devenir réalisateur, est-ce qu'un journaliste politique rêve au fond, lui, secrètement ou non, de devenir conseiller, ministre ou pourquoi pas président? François de Gois.
Non, je crois pas. Je pense que ça se fait en marchant.
vous savez, il y a beaucoup de journalistes politiques qui ont juste la vocation d'observer. Moi, j'ai tellement observé, j'étais à France Inter, je co-dirigeais le service politique.
Ouais.
Et c'est vrai que je suis une femme de gauche, je l'ai toujours été, et je travaillais dans une station qui n'était pas, comment dirais-je, très agressive à l'égard de la gauche, si je puis m'exprimer
ouais.
ainsi. Et voilà, à un moment donné, moi, j'ai eu envie de savoir qu'est-ce que ça veut dire prendre une décision politique. Arrêter de la commenter, mais la prendre. Mais je pense que 90% des journalistes politiques n'ont pas ce rêve. Ils aiment commenter le pouvoir, ils aiment regarder le pouvoir, avec une vraie hypocrisie, mais on en parlera tout à l'heure. C'est quand même le bal des Fauderches. Mais on en parlera tout à l'heure. Donc non, je crois que vraiment, c'est pas... On a l'impression que ça tombe comme des dominos, mais ça n'est pas vrai, c'est quand même assez rare.
Le bal des Fauderches, quel teaser, Alexis
ah ouais,
Lévrier.
Le bal des Fauderches.
Avec tous ces journalistes qui rejoignent des leaders de parti, comment ôter de la tête du public qu'il n'y a pas de connivence entre journalistes et politiques?
Déjà, moi, je pense que la majeure partie des journalistes, y compris des journalistes politiques, ne sont pas obsédés par l'idée de passer un jour de l'autre côté du miroir. C'est une tentation qui existe. On peut dire que ça existe de l'autre côté. Il y a des politiques qui viennent vers les médias. On se rappelle de Jean-Pierre Raffarin qui, après avoir fait huer les journalistes dans un meeting à Poitiers pendant la campagne de 2017, est devenu chroniqueur pour Laurent Delahousse quelques mois plus tard. Donc les points de passage, ils existent entre les deux mondes et c'est logique parce que ces deux mondes, ils ont vocation à se rencontrer. On n'accepterait pas d'un journaliste politique qui ne soit pas informé, donc qui ne côtoie pas les politiques. À partir de ce moment-là, c'est logique qu'il y ait des engagements et des points de passage. Je crois que ce qui doit accompagner ces points de passage, c'est d'abord de la clarté. C'est ce qui a manqué certainement pour Philippe Ballard, qu'il n'a pas annoncé à sa rédaction.
Philippe Ballard de LCI, qui a quitté la rédaction du jour au lendemain, ou plutôt c'est la rédaction qui lui a indiqué où était la porte, puisqu'il a annoncé du jour au lendemain qu'il allait être candidat aux élections pour le compte du RN.
C'est ça, et le lendemain matin, il était sur CNews. D'ailleurs, CNews avait choisi un visuel qui venait de LCI, donc on a le sentiment que c'était la même chose, et il tenait un discours qui était quasiment sur les thèses du grand remplacement, hein, donc très très marqué à droite, alors qu'il n'avait pas du tout cette image-là sur LCI, et il ne l'avait jamais annoncé à sa rédaction, et il est passé en 24 heures d'un monde à l'autre. Ça pose problème. Et par ailleurs, je crois que ce qui doit accompagner ces passages, c'est l'idée que les allers-retours posent problème. C'est pas les allers, c'est logique, et ça n'existe pas simplement en France, mais quand il y a un aller-retour, Françoise, elle est revenue vers le monde des médias, mais avec un statut différent, celui d'éditorialiste. Et quand vous êtes éditorialiste, vous êtes riche de votre parcours, vous l'assumez, vous le revendiquez.
Bien sûr, bien
ça
sûr.
N'a rien à voir avec le rôle d'un journaliste politique qui, lui, oui. doit se tenir à distance et garder une certaine mesure.
Avant cela, Françoise de Goy, vous étiez une journaliste politique. Vous étiez forcément plus conciliante comme journaliste quand vous étiez en interview avec Ségolène Royal qu'avec, par exemple, Marine Le Pen ou Nicolas Sarkozy.
Non, je ne crois pas. Plus conciliante peut-être sur... non, parce que j'ai été très critique. Moi, j'ai couvert la campagne, par exemple, de Lionel Jospin en 2002. Lionel Jospin, pendant la campagne, était furieux. Un jour, il nous avait convoqués, journalistes de France Inter et de Libération et du Monde, en rage, en nous disant, vous savez, quels sont les adversaires d'un candidat socialiste en campagne. Et on lui avait dit non, la droite et la presse de gauche. Et je peux vous dire que la presse de gauche, elle a une tradition, je suis désolé de le dire et il le sait très bien, notre ami Alexis, elle est très dure, et encore plus dure probablement avec...
Juste un mot, vous savez qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont en train de bondir, oui. France Inter, c'est de la presse de gauche?
Non, pas du tout. Bah, en tout cas, c'était considéré comme tel par...
Le service public n'a pas vocation à être neutre?
Bien sûr que le service public est neutre, mais en tout cas, il était considéré par les journalistes de gauche. Vous savez, écoutez, on va arrêter le bal des faux culs. Voilà, c'est pour ça que je dis on va arrêter le bal des Fauderches. Vous savez, les grandes leçons de déontologie, les grandes leçons données par des grands pontes, on peut toute la journée dire je suis journaliste, j'ai ma carte de presse, je suis dans la déontologie, et puis le soir on échange des textos sur Telegram avec Emmanuel Macron. Moi, quand j'ai pas travaillé que pour Ségolène, j'ai travaillé aussi pour François Hollande quand la gauche a gagné. Vous voulez que je fasse le bal des courtisans des journalistes. On donne des leçons de déontologie toute la journée, et puis on passe par la grille du coq pour aller conseiller le président sur tel ou tel discours. Si vous voulez, c'est là où je rejoins Alexis, il faut être absolument clair, il faut de la clarté. Moi, quand j'ai décidé de changer, j'ai expliqué pourquoi. J'ai dit, je ne peux pas jouer un double jeu. Je ne peux pas, d'un côté, commencer à aider Ségolène Royal, et de l'autre, continuer à l'antenne comme si de rien n'était. Mais moi, j'ai été clair. Vous voulez que je vous cite le nombre de gens qui ne le sont pas?
On n'a pas le temps.
Voilà, vous n'avez pas le temps. Donc, je ne le ferai pas, d'ailleurs, parce que ce n'est pas une balance. C'est pour ça que je parle du bal des faux culs. La réalité, si vous voulez, c'est que cette porosité, cette influence-là, elle existe. Chacun peut se raconter des histoires en se disant, je garde mon l'indépendance, mais ça existe réellement.
Alors s'il y en a un à qui on a reproché ses partis pris éditorialistes, c'est Bruno Roger Petit, quand il écrivait dans le magazine Challenge, alors qu'Emmanuel Macron était à l'époque en campagne, BRP sortait régulièrement des papiers à la gloire du futur président. De fait, il est devenu tout de suite après l'élection le porte-parole de l'Élysée. Et en juillet 2018, on se souvient de sa première intervention, c'était à l'occasion de l'affaire Benalla. On l'écoute.
Monsieur Alexandre Benalla, qui est chargé de mission auprès du chef de cabinet de la présidence de la République, a demandé l'autorisation d'observer les opérations de maintien de l'ordre prévues pour le 1er mai. Cette autorisation lui a été donnée, puisqu'il agissait dans le cadre de l'un de ses jours de congé et qu'il ne devait avoir qu'un rôle d'observateur. Il a largement outrepassé cette autorisation et, comme une vidéo l'a montré, est intervenu physiquement pour participer aux opérations de maintien de l'ordre. Sa hiérarchie n'a eu connaissance des faits qu'à posteriori. Il a été immédiatement convoqué par le directeur de cabinet du président qui lui a notifié une sanction disciplinaire.
Cette première intervention de Bruno Roger Petit pour défendre Alexandre Benalla a été également la dernière. Il a sauté de son poste 2 mois plus tard. Comment expliquez-vous qu'à de rares exceptions, le passage du journalisme vers la politique se déroule rarement bien, Alexis Lévrier ?
Alors en fait, BRP, c'est à la fois un cas d'école, c'est-à-dire effectivement d'une difficulté et puis d'une ambiguïté, parce qu'il y avait même eu un communiqué de la Société des journalistes de Challenge en mars 2017 pour s'insurger contre ces éditoriaux qui étaient trop, finalement, dithyrambiques à l'égard d'Emmanuel Macron. Et à l'époque, il était déjà en lien avec eux, le couple Macron, par le biais d'une boucle Telegram qui s'appelait Jupiter, justement. Donc, et on sait qu'il est à l'origine de la reprise du mot Jupiter, ou en tout cas largement à l'origine de la reprise du mot Jupiter par Emmanuel Macron. Et effectivement, ça se passe assez mal, comme ça s'était assez mal passé pour Laurent Saïm. Alors, dans l'entourage d'Emmanuel Macron, il y avait les fameux mormons qui supportaient mal les ingérences extérieures.
Laurent Saïm, qui était journaliste pour Canal+ et pour CNews, même iTélé auparavant, et qui était devenue conseillère à communication des Emmanuel Macron.
Mais de manière très brève, et la greffe n'a jamais pris, et on peut... Alors moi, au début, en préparant Jupiter et Mercure, j'avais le sentiment que c'était la même chose pour BRP. En réalité, pas du tout, puisque vous dites qu'il a sauté 2 mois plus tard. Alors, par exemple, ce qu'on vient d'écouter, le son, c'est pas lui, c'est Ismaël Emelien qui avait rédigé ce texte. On l'a envoyé à l'abattoir, quasiment. Mmh. Et finalement, il est beaucoup plus à l'aise aujourd'hui dans un rôle de conseiller de l'ombre. Il a un rôle, soi-disant, de conseiller mémoire. En réalité, il fait tout sauf de la mémoire. Il fait plutôt l'avenir. C'est-à-dire qu'il est à l'origine, notamment, de la triangulation d'Emmanuel Macron avec des éditorialistes de Valeurs Actuelles ou de CNews. Donc d'une stratégie très méditerranéenne de triangulation avec l'extrême droite et qui fonctionne relativement bien. Donc il est extrêmement influent. Donc c'est plutôt une exception. Souvent, ces passages se passent mal. Mais dans son cas, dans ce rôle de conseiller de l'ombre, on peut dire qu'il est très influent aujourd'hui.
Françoise de Gouard.
Ça se passe mal quand vous êtes, quand les politiques ont cette idée un peu bêta de vous dire vous êtes journaliste, donc vous allez vous occuper des journalistes. Voilà. Ça, c'est là que ça se passe mal. C'est exactement ce qui est arrivé à Laurent Saïm. Moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'étais conseillère spéciale. Un conseiller spécial, c'est le travail de Brunet. Un jour, j'ai demandé à Ségolène Royal, qu'est-ce que c'est un conseiller spécial ? Elle me dit, c'est quelqu'un qui sait tout faire, mais en mieux. Et donc, ça veut dire...
Non,
ça
veut
dire les discours... Non, mais c'est quelque chose d'assez particulier. Donc, c'est les discours, c'est l'organisation des meetings, etc. Si vous cantonnez les journalistes à un simple rôle de conseiller de communication, c'est là que ça foire généralement. Parce que, à un moment donné, il n'y a pas de crédibilité en plus de ça de la part des journalistes, des autres journalistes pour ce confrère. Par contre, quand vous prenez vraiment un rôle politique dans un cabinet, ce qui était mon cas, y compris les désignations des candidats, etc., sur les circonscriptions, là, ça fonctionne bien parce que vous apprenez autre chose et vous-même, vous ne vous lassez pas et vous comprenez surtout les rapports de force dans un cabinet qui sont les mêmes qu'au sein d'un gouvernement.
Et que se passe-t-il quand un journaliste se présente aux élections ? On en parle avec Françoise Degois et Alexis Lévrier. Culture Média continue.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Nous parlons de ces journalistes qui s'engagent en politique et parfois plus que comme simples conseillers, mais qui s'engagent carrément dans le combat électoral. Nous sommes avec la journaliste Françoise Degois et l'historien Alexis Lévrier. Autre cas de journalistes qui se lancent en politique, justement, Perico Legas, rédacteur chef au magazine Marianne, qui candidate aux élections régionales sur la liste du ministre modem mais macroniste Marc Fesneau. La semaine dernière, je recevais à ce micro Claire Léost. Elle est la présidente du groupe média CMI France. Pourquoi j'en parle ? Parce que c'est l'éditeur de l'hebdomadaire Marianne. Si Perico Legas déclare rester au magazine pour faire ses chroniques culinaires en cas de victoire aux élections, eh bien ce n'est pas du tout l'avis de son éditrice. Écoutez-la.
Ah bah évidemment, s'il est élu, il quittera le journal. Il fera sa carrière politique.
Mais... D'accord, il est tête de liste, donc il a de fortes chances de quitter le journal.
Oui. Dans ce cas-là, on en reparlera après la campagne.
Il n'est pas tout à fait tête de liste, il est tête de liste départementale, mais pas régionale. Françoise de Goix, vous pensez qu'il doit rester ou partir en cas de succès électoral?
Je pense qu'il faut partir, même si le droit du travail l'autorise à rester. Je rappelle qu'un journaliste peut être élu dans le droit du travail, objectivement.
Il est déjà conseiller municipal d'Azel Rideau, Périgord-Légas. Il est déjà élu.
Je suis d'accord avec vous, mais là, on est sur un mandat territorial, on est sur un mandat régional, donc on est sur un mandat beaucoup plus politique. Je rappelle en plus qu'il est tête de liste départementale, ce qui n'est pas rien dans une élection régionale. C'est le même cas pour Philippe Ballard. Donc, on n'est pas... Là, il devient, comment dirais-je, une personnalité politique centrale. Et même si c'est pour faire, comment dirais-je, des chroniques de cuisine, il peut les faire à l'extérieur, en pige. Mais rester salarié, je sais bien, c'est pas le problème de faire de la cuisine ou pas. Cuisine électorale, la blague, non. Mais je veux dire par là qu'il peut peut-être faire des piges, mais rester salarié d'un journal, quand on est élu journaliste, ça me paraît impossible, d'autant que Périgord-Légas dépasse largement, c'est un type très intelligent, qui a une vista politique, et il est très souvent sollicité sur l'analyse politique, notamment sur les chaînes télé, donc il faut partir, oui.
Alexis Lévrier.
Oui, il pourra rester lié au monde des médias, mais alors ça se fait beaucoup aujourd'hui, les médias d'information, que sont les chaînes d'info en continu, évoluent, il y a des médias d'opinion, donc il pourra intervenir, tout le monde y intervient pour donner son opinion. Donc à ce titre, il pourra tout à fait y revenir. On peut d'ailleurs s'interroger sur cette porosité qu'il y a sur les chaînes d'information, où tout le monde se dit éditorialiste, quelle que soit l'identité et le statut. Mais dans son cas, bon, même s'il est critique gastronomique, je trouve que c'est une bonne démarche, plutôt sain, de dire, bon, ben voilà, il va quitter le journal. En plus, je ne pense pas que l'identité politique qu'il revendique à LREM corresponde à la ligne éditoriale de Marianne. C'est tout à fait... Donc, il y aurait un problème, et je crois que c'est sain. Ça n'a pas toujours été le cas. On peut penser à Émile de Girardin, le Napoléon de la presse au 19e. Il a été député sous trois régimes politiques.
Oui, d'accord, ça, je sais.
Donc, ce n'est pas du tout des pratiques nouvelles. Hein, et cette porosité, je le disais, elle a toujours existé. Et finalement, on met aujourd'hui des normes éthiques qui n'existaient pas forcément.
On peut parler du père Duchesne. Alors, si on parle de notre cher Hébert, le patron des
enragés. Remontons pas à la Gazette de
France. Non,
moi, j'ai une question pour vous, Françoise de Goix. Si Ségolène Royal avait été élue présidente, l'auriez-vous suivi? Et si oui, à quel poste?
Non, pas du tout. En 2007, non. Moi, je suis parti travailler avec elle en 2009-2010. Non, en 2007, je ne crois pas du tout que j'aurais suivi Ségolène Royal si elle avait été élue. Je n'en avais pas le désir. J'avais suivi, évidemment, cette campagne qui était épuisante, harassante, mais qui reste la plus belle campagne présidentielle avec trois personnalités hors normes en course, Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy et François Bayrou. C'était une présidentielle, c'était un spectacle permanent. Mais je n'avais pas, à cette époque-là, encore le désir d'être... Moi, je suis parti travailler à la région, et quand François Hollande a été élu, je suis parti au ministère de l'Agriculture, donc je n'avais pas encore ce désir, ça n'avait pas maturé. Donc non, je n'aurais pas suivi Ségolène Royal à l'Élysée en 2007. J'étais pas prête.
Et pour reprendre le cas de Bruno Roger Petit, il pourrait redevenir journaliste?
Je pense que Bruno Roger Petit peut redevenir, éditorialiste. On sait où il est, on sait
il
où
est
il
encore,
va. Bruno Roger Petit, je veux bien tout ce qu'on veut, mais voilà, il fait son travail. Il a réussi à survivre dans un monde très acide. Je pense qu'il est assez protégé aussi par Brigitte Macron, qui l'aime beaucoup. Donc Bruno Roger Petit vivra sa vie comme il l'entend après la fin du quinquennat.
Vous parliez d'un lien avec le monde des médias, c'est ce que le Monde révélait la semaine dernière. C'est-à-dire qu'il
Il reçoit Pascal Praud.
Il a reçu Pascal Praud à l'Élysée, mais il communique aussi en plateau, par SMS interposés avec l'équipe de Pascal Praud. Il a des liens très forts avec l'équipe de Valeurs Actuelles depuis l'époque où justement il participait au plateau de Pascal Praud. Donc il est dans cette porosité-là, mais il a un rôle politique évident. À mon avis, s'il revient au monde des médias, il sera marqué par ça et il devra l'assumer.
Enfin, il communique. Moi, j'ai reçu des textos de Bruno Roger Petit me disant « c'est nul ce que tu dis sur Emmanuel Macron en direct ». Et donc, comme j'ai lu ce texto en direct, il ne m'en a plus jamais envoyé.
Et c'est un conseiller de l'ombre, un conseiller secret.
Oui, mais de conseiller à conseiller, on ne peut pas se la raconter, notre life. Vous voyez ce que je veux dire?
À l'étranger, notamment dans les pays anglo-saxons, la porosité entre les médias et la politique choque chez eux. Il n'y a pas un journaliste qui se lance en politique. En revanche, ils ont des artistes qui basculent vers le pouvoir. Schwarzenegger a été gouverneur de Californie. Ronald Reagan, acteur de second plan, est devenu président. Ça peut arriver en France, ça?
Oui, je pense que ça peut arriver. Je ne vois pas pourquoi ça n'arriverait pas. Et après tout, pourquoi pas? Ronald Reagan, sur son bilan, peut considérer que c'était un pas si mauvais que ça, président des États-Unis. Donc, pourquoi pas? Tout peut arriver. Je pense qu'on est dans un moment, de toute façon, et ça n'est pas une dégradation pour moi. Je pense que nous sommes dans une forme de chaos. On est dans, en tout cas, le chaos au sens premier du terme. Tout est en train de changer pour que les choses se remettent en place, quelque chose de nouveau apparaisse. Ça ne me heurterait pas. Je pense que ce n'est pas pour celle-là, ni pour celle d'après, mais ça évoluera, bien sûr. Il y a des artistes qui ont une très grande conscience politique.
Il y a des artistes, et puis des gens du monde des médias. j'évoquais cette porosité grandissante sur les chaînes d'infos. On voit le rôle politique que peut jouer aujourd'hui quelqu'un comme Hanouna, dont on soupçonne des ambitions politiques. Philippe Moreau-Chevrolet a écrit une excellente BD qui s'appelle Le Président, où il imagine que Hanouna va comme ça quitter le monde des médias pour devenir président. Tout est envisageable, surtout après la prochaine présidentielle.
Et ça va même plus loin, on parle de porosité, puisque cette information a beaucoup fait parler. Marlène Schiappa, dans le portrait d'Hanouna que lui consacrait Le Monde magazine, disait qu'elle le verrait bien animer le débat de la prochaine présidentielle.
Oui, et on est dans une période de flottement entre le divertissement et la politique. Et sur le plateau d'Hanouna, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a les politiques s'y pressent, ils viennent. Aussi peut-être parce que les émissions politiques, à proprement parler, n'ont pas su se réinventer. Et du coup, c'est sur ces plateaux de divertissement. Et on peut tout à fait imaginer une figure du divertissement qui bascule vers la politique.
Et pour vous donner raison, sur le plateau d'Hanouna, on y trouve même Jean Messia, ancien cadre du Rassemblement National.
Oui, alors il n'a plus de mandat politique, il n'est plus au Rassemblement National. Mais moi, ce qui me choque, je me suis retrouvé une fois face à lui sur CNews, et je trouve qu'il y a une ambiguïté dans son positionnement. On ne sait pas si c'est un journaliste, un éditorialiste, un politique, et finalement c'est la clarté dont je parlais.
Je pense qu'il ne faut pas prendre les gens pour des idiots, ils savent très bien séparer le bon grain de l'ivraie, ils savent très bien qui parle et d'où ils parlent, les gens. Je ne pense pas du tout que ça soit une dégradation du débat public, je pense que c'est un changement tout simplement du débat public. Hanouna tout seul interviewant faisant le débat de l'entre-deux-tours, je n'y crois pas, mais Hanouna avec deux ou trois autres journalistes, comme c'est toujours le cas, on fait toujours le débat d'entre deux tours à deux. Pourquoi pas ? Il faut absolument savoir s'adapter et de toute façon, à un moment donné, on peut tous relever le niveau. Hanouna n'est pas... Non, mais je veux dire que Hanouna n'est pas cette espèce de saltimbanque. Hanouna, dans la vraie vie, est quelqu'un qui est beaucoup plus posé et qui a un vrai regard que ce qu'il montre forcément sur TPMP. Donc moi, je dis... Ouvrons grand les portes. Je ne suis pas pour la sanctuarisation. Je pense que ce sont les politiques en premier qui abîment la politique, pas les animateurs.
Merci beaucoup Françoise Degois, journaliste politique. On vous retrouve comme chroniqueuse dans les débats sur LCI, une radio que j'ai déjà citée, donc j'arrête. Merci beaucoup Alexis Lévrier. Je rappelle votre dernier ouvrage, Jupiter et Mercure, le pouvoir présidentiel face à la presse. Il vient de sortir aux éditions Les Petits Matins. Dans un instant, le grand soir peut-être. On sera avec le réalisateur Serge Moati, c'est improvisé, pour son doc François Mitterrand à la télévision. Merci. Diffusé ce soir sur France 2 en deuxième partie de soirée. A tout de suite.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Bondel.
Bonjour Serge Moati.
Bonjour Philippe.
Homme d'image, producteur, metteur en scène, réalisateur, vous avez présenté pendant 10 ans l'émission Riposte sur France 5, mais vous êtes surtout entré dans l'histoire pour avoir été le conseiller image de François Mitterrand, notamment le débat télévisé avec Valéry Giscard d'Estaing en 81, puis en 88 avec Jacques Chirac, et avant cela, la fameuse cérémonie au Panthéon. Votre actualité, évidemment, tourne autour de la commémoration des 40 ans de l'arrivée de la gauche à l'Élysée, un documentaire Mitterrand et la télévision qui va passer ce soir à 23h40 sur France 2.
Très tard,
mais il y a le replay, vous savez.
Bien sûr, je sais, ça ne m'a pas échappé.
Documentaire très personnel, puisque vous êtes à la fois juge et parti, et je dois dire que parfois vous ne nous épargnez pas. C'est pas un documentaire à votre gloire. Donc, Mitterrand et la télévision, avant d'en devenir un maître, au début, le candidat ne maîtrise pas du tout l'outil, il est mauvais comme un cochon.
Incroyable, il détestait la télévision. Ouais. C'est une des premières choses qu'il me dit lorsque je l'accompagne rue Cognac-Gé au siège de la télévision de l'époque.
Ouais.
C'est la première chose qu'il me dit, je déteste la télévision, je me suis dit, je suis mal barré, moi.
Ouais.
Et effectivement, vous faites allusion...
On va démarrer avec une séquence très forte que je ne connaissais pas, une séquence de bêtisier. Vraiment, bêtisier avec Mitterrand, je ne sais même pas que c'était possible. On est en 65. Mitterrand est en compagnie de Georges Decaune, le papa d'Antoine. Mitterrand doit s'adresser aux Français face à la caméra. Il fait, comme on fait parfois, quelques essais. Et là, il est vraiment, vraiment pas content de sa prestation parce qu'il y a vraiment plus que quelques essais.
Monsieur Mitterrand, c'est le 4e. Oui, j'ai bien fait là, mais c'est moi qui n'ai plus... Comme je cherche ce truc, j'ai oublié mon truc.
Je reprends.
On continue.
Septième fois.
Tournez le regard vers le passé, comme l'a fait le général de Gaulle. Ou bien regardez franchement devant soi, avoir confiance dans son pays, et donner aux Français... Ça, c'est raté.
Monsieur Mitterrand, 8e.
Le président de la République, c'est le garant. C'est la caution.
Monsieur Mitterrand, 10e.
Le président de la République... C'est le garant. C'est la caution. Ah là 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 là. Mon Dieu.
c'est lui qui tape sur la table, boum. C'est la conscience, on ne sait même pas le mot qu'il veut prononcer.
Le mot conscience, dans quelle langue c'est, etc.
Ensuite, vous allez devenir son conseiller à l'audiovisuel. En quelle année exactement? À quelle occasion? Ça se passe comment?
En 71, au congrès d'Épinay. Moi, j'étais là, comme ça, dans la salle, et comme un jeune socialo que j'étais à l'époque. Et il devait faire sa première émission en tant que premier secrétaire du Parti Socialiste, le soir à Cognac-G, vous savez, où il y avait le siège de la télévision. Il me dit « Accompagnez-moi ». Bon, je l'accompagne, et il vient vers moi reculant. Quand on lui dit « C'est lui, là, il connaît un peu la télé ». Et il me dit cette phrase formidable. Je connaissais le cinéaste Serge Moati, je ne connaissais pas le camarade Serge Moati. Alors là, je lui jurais fidélité jusqu'à sa mort, ce qui a duré, puisqu'on s'est croisés pendant 25 ans. On arrive à Cognac, dans la voiture, quoi. Et il me dit « Je déteste la télévision, ses yeux noirs qui me fixent, etc. » Je me suis dit « Ambiance, ambiance ». C'était ça le ton de Mitterrand au début.
Mais vous l'avez fait progresser, évidemment. Je vais sauter des étapes. D'abord, le débat télévisé de 74. Quelles étaient les règles de ce premier débat?
Il n'y avait pas
de règles.
Non.
C'est démocratique, ceci dit, de ne pas mettre de règles.
Non, c'est démocratique, mais je ne suis pas sûr. Parce que moi, qui suis devenu un spécialiste du langage télévisé, c'est pas sûr que le plan de coupe soit démocratique.
On va parler justement du plan de coupe. Alors, je ne diffuse pas d'extrait parce que tout le monde les connaît. Giscard qui marque des points énormes avec deux formules. Vous n'avez pas le monopole du cœur et également, vous êtes l'homme du passé. Mitterrand est battu pour le débat, je ne sais pas, aux élections, c'est avéré. En 81, rebelote. François Mitterrand affronte Giscard au deuxième tour. Là encore, un débat est prévu. Mais cette fois-ci, le camp Mitterrand ne laisse rien au hasard. C'est vous qui êtes mandaté, Serge Moati, pour vous en occuper.
Avec Robert Badinter, surtout.
Et vous posez au camp adverse une série de 13 règles. Première règle, pas de plan de coupe. Règle qui est toujours en vigueur actuellement. Tristan Carnet, je me souviens, s'en est plein une fois. Pourquoi vous avez demandé cette règle? Pas de plan de coupe. Je vais dire ce qu'est un plan de coupe et vous allez m'expliquer pourquoi vous n'en voulez pas. Le plan de coupe, c'est quand la caméra filme la personne qui écoute au lieu de filmer la personne qui parle.
Voilà, exactement. Moi, je peux détruire absolument. Si par exemple j'avais une caméra sur moi et que je fais ça, genre, qu'est-ce qu'il est.
Vous êtes en train de vous frotter la barbe, genre,
qu'est-ce qu'il est nul ce mec, ou alors je lève les yeux au ciel, comme ça, etc.
Vous rigolez.
Je vous détruis totalement ce que vous dites. Non, vraiment, c'est sérieux. Et comme moi, je viens de la fiction aussi, j'ai fait beaucoup de films de fiction, vous savez, etc. Je connais par cœur ce genre de truc. Quand vous voulez détruire quelqu'un, vous faites un plan de coupe méchant, salaud, enfin bon, etc. Et donc, c'était très démocratique, au contraire. On a négocié avec le plan Giscard les 13 règles.
Hein. Et les 13 règles, j'ai appris dans un livre que vous aviez écrit il y a 10 ans que vous n'en vouliez pas. En fait, vous avez fait plein de règles pour les mettre en difficulté.
Oui.
Vous n'avez pas besoin de ces 13 règles et le camp Giscard a tout accepté.
Oui. Il y en avait plus que 13 d'ailleurs, mais enfin, ça fait rien. Et ils ont tout accepté parce qu'ils se sentaient tellement meilleurs, Giscard, que Mitterrand, ce qui était vrai d'ailleurs. Et qu'ils ont tout accepté, au grand détriment d'ailleurs de François Mitterrand.
Ben Giscard d'Estaing qui avait imposé une seule règle qui a été acceptée par vous, qui était que le temps de parole soit exactement le même. Au même moment, il y a une affaire qui pourrissait la fin du septennat de Valéry Giscard d'Estaing, l'affaire des diamants. Les diamants que Bokassa aurait offert à Giscard et dont il était incapable de dire où ils étaient passés. Et c'est là, Serge Moati, que vous entrez en scène.
Et moi j'avais trouvé une ruse, mais dont vraiment, vraiment, je ne suis pas fier, non. J'avais mis sur le bureau de Mitterrand, avant le débat, un dossier jaune sans rien lui dire. Mais par contre, j'avais chuchoté au conseiller de Giscard d'Estaing « Écoute, écoute, puisqu'on discute de la valeur des plans, j'ai besoin à un moment d'avoir un très gros plan sur une feuille que va sortir Mitterrand d'un dossier qui est placé devant lui. » Il me dit « Quoi? Ça concerne les diamants de Bokassa? Chut, tais-toi !» Évidemment, 10 minutes après, tout l'Élysée était au courant. Et vous savez ce qu'il y avait dedans? Rien.
C'est machiavélique, mais est-ce que Mitterrand aurait marché dans la combine?
Jamais.
Il était au courant? Vous lui avez dit quoi sur ce dossier jaune?
Je lui ai dit non, simplement, si Giscard vous énerve trop, vous tapotez sur le dossier jaune.
Et là, vous faites le petit bruit du tapotage.
Oui, je fais. Et genre, vous m'énervez, donc attention, il y a peut-être un danger pour vous dans ce dossier jaune. Mais il n'y avait rien dans le dossier jaune. Et simplement, il y a eu une angoisse qui a parcouru le clan Giscard d'Estaing.
Beaucoup d'autres choses à dire sur Mitterrand et la télévision, la cérémonie du Panthéon, puisque cette fois-ci, Mitterrand a été élu, et beaucoup d'autres choses encore. Le débat avec Jacques Chirac, Serge Moati et notre invité, on s'en réjouit, Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Serge Moati, grande figure de la télévision, conseiller image du président Mitterrand, mais pas seulement, je rappelle ce documentaire Mitterrand et la télévision, c'est ce soir à 23h45 sur France 2, documentaire édition avec des séquences inédites, même pour qui connaît bien les sujets. Alors il y a la fameuse séquence du Panthéon, celle-ci elle est connue, c'est le jour de la prise de fonction du président, ouais. Le 21 mai je crois, je le cite de mémoire. C'était votre idée, le Panthéon avec Jack Lang.
Non, c'est l'idée de Manseron, Jack Lang
et Roger Hanin aussi. Hanin, seul petit problème, vous n'étiez jamais allé au Panthéon de votre vie.
Je ne suis pas retourné depuis. Mais pour moi, c'est un souvenir terrible. Ouais. Je n'avais jamais fait d'émission en direct non plus.
Alors c'est là où c'est dingue.
C'est dingue. Donc ils m'ont choisi parce que j'étais le type qui s'occupait de l'audiovisuel chez Mitterrand. Mais j'ai très peur. J'y vais la veille, je découvre le Panthéon, je me dis comment on va faire. J'installe des caméras, tout ça, ça bien sûr. Enfin bon, d'accord. Mais il se passe quelque chose d'inouï. Je le perds.
Mitterrand se perd dans le Panthéon.
Coup d'état fasciste.
Et il n'y a plus rien à l'image. Vous repassez les images, j'avais complètement oublié cette séquence. Oui, oui. On voit des pierres, mais il n'y a personne. Mais oui. On dirait une photo.
Mais oui, mais c'est terrible parce que ça dure peu de temps. Hein. Mais moi j'avais l'impression que ça durait des heures. Ouais. Surtout que Defferre, nouveau ministre de l'Intérieur, qui est assis derrière moi, me dit « Retrouve-le !» J'ai dit « Oui, j'essaye ». Il avait mal interprété un geste. On avait mis des jeunes militants qui faisaient des gestes à gauche, à droite, machin, etc. Et qui devaient lui donner des roses chaque fois.
Ouais,
pour il avait mal interprété un geste et je l'ai perdu. C'est affreux, je me suis dit, je suis promis un goulag social-démocrate.
Finalement non, aucun goulag social-démocrate, Serge Moati, puisque dans le documentaire, vous racontez avec beaucoup d'humour comment vous avez été récompensé par la suite, car vous avez été récompensé en 82. Vous avez été nommé, je vous cite, nommé par Mitterrand lui-même, patron des programmes de FR3. Oui. Et alors là, quand même, ça donne à réfléchir, parce que si on vous suit, l'opposant Mitterrand, qui critiquait la mainmise
du pouvoir
du Giscard, notamment sur la télévision, nomme lui-même les patrons de télévision une fois élu.
Ouais, mais je n'étais pas président. Hein. J'étais directeur des programmes.
Oui, mais quand même.
Non, mais d'accord, mais ce n'est pas tout à fait pareil.
D'accord. Vous confessez une autre couleuvre que Mitterrand vous a fait avaler, c'est réembaucher Guy Lux.
Ah oui.
Et je me souviens de ce papier, de moi qui suis pas tout jeune, je me souviens très bien de ce papier, je ne sais plus quel journal le titrait, ils ont rappelé Guy Lux.
Ouais, ouais.
Et c'était vous, il avait été viré de la 2 parce qu'il était considéré comme les variétés à l'ancienne.
J'étais pas du tout la 2, j'étais la 3, ouais. FR3 comme on disait à l'époque. Et Mitterrand me convoque à l'Elysée, il me dit venez me voir, je vais vous parler. Vous savez Moati, vous avez une très belle image culturelle. Ah mais merci, et je me disais ça sent le roussi, ça déjà... vous savez, on n'a pas voté contre Guy Lux en votant François Mitterrand. Ben, je dis non, bien sûr. Ça. Rappelez-le. Non mais vraiment, monsieur le Président.
Et voilà.
Rappelez-le. Oui, oui. Et j'y étais pour rien, moi, dans cette histoire d'éviction de Guy Lux.
Ouais. Et vous ne pouvez pas dire non.
Eh non, je ne pouvais pas.
On raconte le rapport entre les patrons de chaîne et le pouvoir. Oui. Vous ne pouvez pas dire non.
Non mais c'est le seul moment.
Ouais, c'est le seul moment. Et vous n'éludez pas ce moment dans ce documentaire, ce qui est tout à votre honneur. Bien sûr. Est en 88, évidemment, je saute des étapes. Mitterrand est à l'Élysée et vous êtes à l'autre bout du monde quand il vous appelle pour participer à sa campagne, cette fois-ci pour un second mandat. Là encore, débat télévisé. C'est contre Jacques Chirac, vous le préparez avec tous les conseillers.
Ouais.
Plein de réunions. Ces réunions vont donner à l'antenne une séquence qui, elle aussi, est entrée dans l'histoire.
Il s'ensuit d'une recommandation générale de tous les conseillers encore plus importante. Vous devez l'appeler toujours « Monsieur le Premier ministre » afin de l'associer constamment à votre action politique. Et cela se déroula miraculeusement comme ce fut prévu et souhaité.
Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand.
Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre.
Pourquoi cet effet sonore drôle. Pourquoi ce boom? Parce que je précise, c'est vous
moi.
Qui l'avez mis au montage.
C'est
ouais.
Moi,
pourquoi
oui, parce que pour montrer qu'on avait gagné, là.
Mais ça suffisait, la réplique de Mitterrand, non? C'est comme si vous avez mis pendant ta
non,
gueule.
Non, mais j'ai fait... Non, parce que moi, j'avais assisté à toutes les défaites précédentes. Ouais. Donc là, je respirais.
D'accord.
Et voilà. Non, mais je l'ai mis au montage de mon film. Je ne l'ai pas mis, évidemment, pas...
J'ai bien compris. Au montage de votre film, on sent que c'est un montage extrêmement militant. Je ne vais pas vous le reprocher.
Non, je m'amuse. Je m'amuse, parce qu'en même temps, je suis dans l'autodérision et dans le machin.
Ouais.
Donc, je m'amuse. Enfin, il n'y a pas de... Et puis, c'est de l'histoire, maintenant, ancienne, mais mythique pour les gens de gauche. Parce que, évidemment, c'était changer la vie. Donc, cette histoire de répétition de Monsieur le Premier ministre, etc., on l'avait vachement travaillé avant. Et il n'est pas tombé dans le piège une seconde. Et Chirac, après. Je l'aimais bien, Chirac. Il m'a fait raconter l'histoire vue de mon côté. Si
alors,
ouais. Ben, il s'est marré, quoi. Il dit, ah, les coquins, oui. Non, c'était drôle, quoi.
Il vous a dit, vous m'avez bien eu.
Oui, enfin, très fair play, quoi, très gentil.
La séquence la plus forte, on n'a pas le temps de la passer, mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est vous dites, ce que je retiens le plus de l'empreinte de François Mitterrand à la télévision, c'est le jour où il annonce en direct à la télévision qu'il est contre la peine de mort, alors qu'il sait que c'est une mesure impopulaire. Tous les sondages disent qu'il ne faut pas faire ça.
Oui, et il le fait.
Et votre thèse, c'est que c'est justement ce jour-là qu'il gagne en proposant une mesure impopulaire.
C'était formidable. Moi, j'ai trouvé que j'étais là pendant l'enregistrement. Il y avait El Kabbach Duhamel qui menait l'entretien, etc. Et je leur ai dit, c'est ce jour-là que Mitterrand a gagné. Parce qu'il allait contre l'opinion publique et on a entendu battre son cœur. Et c'est un homme de cœur, Mitterrand.
On a entendu votre cœur battre également aujourd'hui, Serge Moati. Oui. Merci beaucoup. Mais ce doc, c'est ce soir, Mitterrand à la télévision à 23h45 sur France 2. On peut même vous voir à Apostrophe et dans plein d'autres endroits et même avec des gros cheveux partout. Culture Média continue après le rappel des titres de 10h. Eva Rock, Bertrand Chameroy et notre invité culture, peut-être le plus grand photojournaliste au monde, Sébastien Salgado, auteur d'un livre absolument sublime. Eh oui, vous avez vu les invités qu'on a, Amazonia, avec une expo à la Philharmonie de Paris et puis dans les indispensables de la musique et le nouveau thriller de Franck Tillier, conseil de lecture de Nicolas Caro et Angèle Châtelier pour parler des francopholies. Bravo, bravo, je prends ce bravo pour tout, toujours en monde d'un cran après vous. Merci beaucoup Serge Moati, Culture Média continue, à tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.